Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées d'une petite minute, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre. Jusqu'à midi, en effet, c'est votre émission littéraire et en ce dernier jour du mois de février, j'ai le plaisir de retrouver une actrice, une comédienne, une romancière que nous avons reçue il y a un peu plus de 3 ans maintenant pour une saga romanesque. On en reparlera vraisemblablement avec elle, mais je me réjouis de la retrouver devant notre micro, c'est Lola Semonin. Bonjour Lola.
Bonjour.
Alors Lola, je vais te tutoyer. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs que je tutoie dans les numéros de Wagon Livre parce que nous nous connaissons depuis plusieurs années. Et puis je crois que te vouvoyer serait un exercice difficile pour moi.
Ben comme ça, moi ça me va super bien de te tutoyer parce que je t'apprécie beaucoup. Et puis moi je tutoie facilement les genoux. Hein.
Alors on ne parle pas de ton âge ?
Oh ben moi ça ne me gêne pas, je vais avoir 7-5 cette année, c'est un beau chiffre. Tant que le corps va bien, la jeunesse est toujours dans mon cœur et dans mon âme.
Alors pour...
Et dans ma tête.
Et dans la tête, c'est vrai, c'est important aussi. Pour un grand nombre de Françaises et de Français, parce que tu as eu d'abord une petite gloire dans le Haut-Doubs, ton pays natal, le Val-de-Morteau, avec ce personnage théâtral que tu as créé avec ton compagnon, à qui il faut rendre aussi hommage.
Gérard Boulle de Chaumont.
Donc, la Madeleine Proust. Et puis, il y a eu, j'allais dire, une montée en puissance de ce spectacle grâce à des soutiens, des personnes qui ont apprécié le fait que tu mettes en scène une paysanne drôle, mais qui aussi défendait l'honneur des paysans du Haut-Doubs, pas que la linguistique, mais aussi des valeurs et parfois une Madeleine Proust subversive, comme tu aimes à l'être parfois.
Et ça allait très très vite, hein, puisque je suis passée des petites salles de théâtre du Haut-Doubs de 100 places à Champs-Élysées, à l'émission Champs-Élysées un an plus tard, avec 22 millions de spectateurs. Tu vois un peu le tremplin, alors que moi je pensais pas à l'époque carrière. Hein.
Alors tu as 30 ans quand tu commences à...
Oui, j'ai 32 ans.
32 ans quand tu commences, ouais, à incarner le personnage de la Madeleine Proust, qui plus tard... Donc, chez Pygmalion et aux Presses de la Cité, devient un personnage de roman, ouais, puisque cette maison d'édition t'avait demandé de donner encore plus d'épaisseur à ce personnage.
Ah oui, d'en faire un personnage imaginaire par la littérature, c'était extraordinaire. Sauf que je ne savais pas que je ferais 4 tomes. Donc, ça s'appelle La Madeleine Proust, une vie. Mais au bout de 300 pages, je m'aperçois qu'elle avait que 8 ans. Alors, je me suis dit, oulala, je pourrais jamais faire un seul tome. Et du coup, ça a été génial parce que je me suis plongée dans la guerre de 40. Je me suis à nouveau plongée dans ce monde paysan, dans toutes les notes que j'avais prises. J'ai lu des livres, j'ai regardé des films. Moi, j'ai besoin de m'immerger dans tout ce que je fais. Et cette immersion m'a nourrie. Pour moi, c'est la grande école, la vie. C'est peut-être mieux que ce que je faisais en classe, tu vois, parce que je choisis mes thèmes et j'y vais à fond dans les thèmes que dans lesquels je vais m'immerger.
Alors, c'est légitime pour tout artiste qui a toujours besoin de reconnaissance. Cette saga romanesque, La Madeleine Proust, une vie, t'as vu obtenir des prix, notamment le prix Jules Renard, le prix André Besson. Alors André Besson, nous en parlions avant que de nous retrouver dans cette émission. André Besson qui a été longtemps le seul écrivain franc-comtois professionnel. qui vivait vraiment de sa plume.
Oui, et puis il a fait beaucoup de téléfilms. Il a écrit des polars aussi. Et puis il a des documentaires historiques avec toute une association de gens amateurs qui réalisent les scénarios qu'il écrivait. Et puis qui a choisi sa mort, et j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que mettre en scène sa mort, moi je pense que la vie, c'est quand on vit, on sait qu'on va mourir, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui organisent leur mort, pour pas avoir une fin de vie qui est à la fois pesante pour la famille, ou voir le délabrement de son corps. Donc lui, il a décidé d'organiser sa mort, et comme il ne savait pas nager, et qu'il avait un cancer et il voulait pas se voir son corps se dégrader, il est allé au bord du canal à Dole, il a accroché son chapeau et sa canne à un arbre et s'est laissé glisser dans le canal.
Tu l'as croisé souvent dans des salons du livre ?
Oui, je l'ai croisé, je suis allée chez lui, il m'aimait beaucoup, il m'a montré ses manuscrits parce qu'il écrivait tout à la main, je les ai photographiés, et je le retrouvais régulièrement dans les salons du livre en Franche-Comté. Hein. Ouais.
André
Besson. Il me disait toujours, ne mets pas tes livres en poche, tu gagneras plus d'argent.
Alors ce que je propose, Lola, c'est toi qui fais le programme musical de Wagon Livre.
Oui.
Alors, on a le choix. Soit on écoute Les Mains d'Or, soit Respire, soit Bain Ordinaire ou Le Labyrinthe.
Ben, on pourrait peut-être commencer par Je suis un gars, Bain Ordinaire de Charles Bois, que j'adore, parce que c'est le rêve aussi de quelqu'un qui est ordinaire et qui aimerait bien être populaire. Et j'adore Charles Bois, j'adore cette chanson.
Alors, on te retrouve dans quelques minutes après cet intermède musical. Et puis, je rappelle que tu es avec nous pour ton dernier livre, plutôt original, qui a pour titre « Brève de dédicace » et qui est toujours disponible aux éditions du Sequoia. « Brève de dédicace » qui est sorti à l'automne 2025. Lola Semonin est avec nous sur Radion. On revient juste après la virgule musicale qu'elle vous offre.
Que je pense à ma carrière, je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Please!
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Un gars ben ordinaire, pause musicale, choisi par notre invitée Lola Semonin, qui est avec nous devant les micros de l'émission littéraire de Radion pour Brève de dédicace, sortie à l'automne de l'année dernière aux éditions du Sequoia, une belle maison d'édition qui t'a déjà accueilli pour les brèves de la Madeleine, en plusieurs
tomes.
Oui, on
en a fait plusieurs.
Et la réédition d'un roman qui t'est cher, que tu as écrit initialement aux éditions Jean-Claude Lattès, c'était en l'an 2000, et qui a obtenu le prix Louis Pergaud. C'est le Cri du Milan.
Oui, le Cri du Milan.
Un petit mot sur ce roman.
Pardon ?
Un petit mot sur le Cri du Milan.
Alors, le Cri du Milan, ça a été inspiré par un ami qui m'a dit, toi qui habites près des falaises, qui connais bien le Milan royal, les faucons pèlerins, surtout à une époque où le faucon pèlerin ne se reproduisait pas en captivité, donc il y avait des gens, des volières qui venaient voler les œufs pour les revendre, ou aux volières aux Émirats arabes, hein, puisque c'est le dieu pour le monde arabe, cet oiseau. Et j'en ai fait un polar très poétique que les gens aiment toujours acheter, toujours lire. On m'en parle tout le temps du Cri du Milan. Ouais. Alors, c'est mon premier roman. Quoi.
Absolument. Prix Louis Pergaud. Alors, Louis Pergaud, dans la saga romanesque de notre petite Madeleine Bobillé, qui épouse donc un monsieur Proust, il y a un certain nombre de romans que la petite Madeleine a lus, qu'elle a reçus en prix d'ailleurs à l'école. Je les cite, il y a La Guerre des Boutons, il y a Les Misérables, La Madeleine, petite demoiselle Bobillé, a lu Heidi, et elle a lu également un roman bien connu d'Hector Malo, c'est Sans Famille. Louis Pergaud, c'est un écrivain du Doubs, un franc-comtois, on le sait d'ailleurs, mort au tout début de la guerre de 14. C'est un romancier qui a de l'importance pour toi.
D'abord, il a été instit, hein, moi aussi,
c'est vrai,
pendant 10
ans.
Point
commun avec toi.
Il s'est beaucoup intéressé aux paysans quand il était instit du côté de l'Andresse dans le Doubs. Il les a beaucoup écoutés, il a joué au tarot avec eux, et ça lui a donné toute cette inspiration pour son livre comme de Goupil à Margot, avec lequel il a eu le prix Goncourt, très méprisé par les Parisiens. J'ai connu ça aussi. Parce que tu viens de la campagne, et les Parisiens, qui sont souvent des faux Parisiens, ont énormément de mépris pour les gens de la province. Encore maintenant, je trouve, souvent, même à la radio, des fois, il y a des petites réflexions du genre, si vous habitez à Paris, venez voir cette exposition. Enfin, comme si nous, on pouvait pas se déplacer pour aller voir une expo à Paris, tu vois. Et j'ai toujours été très, très sensible à ça. Et puis en plus, mort à la guerre de 14, en plus par un boulet de canon français, ils ont mal réglé le tir et on sait maintenant que il a été tué par un boulet de canon français, c'est horrible. Cet homme qui aurait pu encore écrire plein de choses merveilleuses, comme Alain Fournier d'ailleurs, oui. Le grand Maulne qui est mort aussi à la guerre de 14.
Ou Peggy, tué aussi au tout début de la guerre
des la décatombe, comme dirait la Madeleine.
Alors cette guerre des boutons, les misérables, ce sont les lectures de la petite Madeleine. Quels ont été, est-ce que tu te rappelles, les romans qui ont marqué ton enfance, ton adolescence,
Moi, j'adorais les histoires d'orphelins. D'ailleurs, je doutais que mes parents étaient mes vrais parents. Souvent, j'essayais de leur faire prouver en regardant les photos que j'avais été adoptée. Je ne sais pas pourquoi. Et Sans famille, c'est un livre qui m'a énormément marquée, que j'ai lu et relu. À l'époque, il y avait aussi La cage aux rossignols, qui a inspiré finalement... le film de Junio, les choristes, c'est inspiré par La cage aux rossignols. Beaucoup de livres de la Bibliothèque verte, toute la collection. Moi, je lisais tout le temps. Hein. Je lisais en marchant, je lisais en mangeant. Il me tardait de rentrer de l'école pour lire. Dès que je m'ennuyais à l'école, j'aurais tellement, tellement voulu avoir le droit de lire quand je finissais avant les autres. J'ai même lu en récréation aussi, bien que j'étais quand même hyperactive et puis que j'aimais bien sauter à la corde et jouer aux trois balles contre le mur. Après, les livres qui m'ont vraiment marqué, le premier livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai relu aussitôt, je pense que j'avais 14 ans, c'était L'Arrache-cœur de Boris Vian, et après Giono. Et je me souviens, j'avais 15 ans, au bac de français, et la prof, elle avait ras-le-bol d'entendre les élèves parler des mêmes textes, elle m'a dit « Quel est ton écrivain préféré ?» Et j'ai dit « Jean Giono ». Et il y a ses yeux qui sont mis à briller. Elle m'a dit, parle-moi de Jean Giono. Et je sais plus ce que j'ai dit. J'aurais trop voulu être enregistrée. Mais elle me regardait. C'était merveilleux comment elle me regardait. Comment elle semblait être épatée. Et elle m'a mis 16. Et c'est la première fois que je parlais d'un écrivain comme ça que j'avais choisi moi-même.
Est-il vrai que, petite fille, tu étais plutôt garçon manqué, très sportif, presque acrobate, et que tu voulais être peintre ou artiste, tu es devenue institutrice, mais c'est ta mère qui t'a mis sur cette voie-là.
Alors, ma mère, c'était son rêve à elle. Elle a pas pu le réaliser à cause de la guerre. Moi, si tu veux, ça m'intéressait pas, instit, mais c'était défini. Je sortais de la messe, j'avais genre 4 ans. Elle disait aux gens, elle sera institutrice. J'étais vraiment formatée et je voulais surtout pas lui déplaire. Donc, je suis allée directement vers cette voie, alors que sinon, j'aurais aimé faire les beaux-arts. Mais par rapport à mon tempérament, oui, j'étais un garçon manqué parce que je pense que j'étais féministe avant l'heure, parce que j'avais bien compris qu'une fille, on n'avait pas les mêmes droits que les garçons, à la fois dans ma famille. Mes frères avaient le droit de partir jouer quand moi je devais débarrasser la table. Donc je trouvais que c'était une grande injustice. Et dans tous les sports, il fallait que je sois la meilleure pour être acceptée par les garçons. Pour être acceptée à la fois dans les bandes de garçons qui attaquaient une autre bande pour construire une cabane. Et puis dans les concours de ski, comme j'ai fait beaucoup de concours de ski, c'était vraiment très injuste parce que les filles ont passé pour recevoir les prix après tous les garçons, même les poussins de 5 ans. Et je me souviens, il y avait des îlots magnifiques, il y avait des montres, il y avait des lunettes de ski, il y avait des gants de ski. Et à la fin, il y avait les caramels clos, c'est le fart pour les skis. Et moi, quand j'arrivais première, même j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, eh ben qu'est-ce que j'avais? Du fart pour les skis, du caramel clos. Et je crois que je me suis construite sur cette injustice. Ça a nourri mon caractère à vouloir toujours me battre contre ces injustices et puis à défendre les filles, les femmes dans ce monde. Et Dieu sait si j'ai la chance de voir les femmes reprendre petit à petit ce que les hommes avaient caché de leur victoire.
Alors, tu défends les filles, les femmes, tu as défendu le personnage de la Madeleine sur scène, tu défends le langage, les mots, et on écoute un extrait d'un de tes spectacles, c'est un extrait de la Madeleine Proust à Paris, donc on est en 1987, et il s'agit, la Madeleine a participé à la dictée de Pivot, on écoute l'extrait de ton spectacle.
Ben, j'ai fait la dictée de Pivot. Ah ben, dis, j'ai fait 12 fautes, c'est pas beaucoup, hein. C'est la Paulette, 32. La Catherine, 24. Pourtant, elle est institutrice. Le Léon, 98. Enfin, 73 ans, tu perds un peu, hein. Il n'y a qu'une femme, elle n'a pas fait de faute, alors elle a gagné, vous lui donnez un réveil. Oh, ben c'était dur, hein. Oh, le cochon, c'est taillé. Tiens, c'est un ton, ça. Là, ça fait mal, mais c'est pas vif. Oh, si on voit qu'il est savant en pivot, il allait vite. Un sceptre éburnéen. Dit, j'ai pas fait de faute, puis je savais même pas ce que ça voulait dire, moi. Ben, ça, c'est normal, hein, parce que j'aime bien l'orthographe, tu vois. Moi, aussi, je connais encore bien mes règles, moi. Hein. Les noms féminins terminés en i prennent e, sauf fourmi, brebis, souris, nuit, perdrix. Tu vois, les verbes en ot s'écrivent avec un seul t, sauf baloté, boté, boycotté, caloté, caroté, crotté, loté, voté, voté, frotté, caroté, caloté, marmoté, trotté. Oh, j'en ai oublié, hein, moi. Attends, garrotté, grelotté, marcotté. Voilà, c'est ça. Oh, ben, c'est bien, la mémoire, hein, parce qu'on se rappelle de tout.
La dictée de Pivot, extrait donc de la Madeleine Proust à Paris. Alors, Lola Sémonin, ton rapport à l'écriture, à l'orthographe, au langage, tu aimes les mots, tu les respectes, et surtout, tu les agences, parce que la Madeleine Proust... Le personnage est un personnage de théâtre. Ensuite, tu en as fait un personnage de roman. Alors là, tu étais ravi de lui donner encore... La parole est une véritable vie. Parce que sur scène, c'était plus des épisodes de sa vie.
Bon, quand même, quand j'ai écrit le personnage de la Madeleine, j'ai imaginé d'où elle venait, ses parents, tout ça. Mais là, évidemment, j'ai creusé beaucoup plus pour lui donner la parole. Et en lui donnant la parole, comment elle allait justement s'exprimer. Alors en même temps, j'avais des contraintes puisque je ne pouvais pas utiliser les mots de vocabulaire que je voulais, puisque c'est la Madeleine qui raconte. Et j'ai fait un dictionnaire de mots franc-comtois, donc de mots français et mots franc-comtois. Parce que les dictionnaires régionaux, c'est toujours les mots régionaux, donc les mots franc-comtois, et traduit en mots français. Et moi, pour écrire mon roman et pour colorier la langue, il fallait que ce soit l'inverse. Donc, j'ai fait un dictionnaire qui sera édité bientôt aux éditions Sequoia, justement. Parce que quand j'ai besoin de colorier une phrase, il faut que j'ai le mot français. Par exemple, planter des piquets dans un champ. Et là, je vais trouver barrer. On va barrer les champs. Et donc, ce dictionnaire m'a beaucoup aidée. J'ai bien passé plus d'un mois à le faire avant de commencer d'écrire cette saga, cette tétralogie, La Madeleine Proust, une vie.
Alors, on a entendu l'extrait du spectacle consacré à la dictée de Pivot. Tu l'as rappelé, pendant combien d'années as-tu été institutrice ?
10 ans.
Et alors, tu es à ta place quand même. Même si cette carrière était décidée par ta mère, tu t'es sentie bien dans la peau de l'institutrice.
Ce qui s'est trouvé, c'est que il devait y avoir quelque chose en moi qui de toute façon ne voulait absolument pas reproduire ce que j'avais vécu à l'école, parce qu'à l'école je m'ennuyais. C'est aussi une période où les maîtresses nous frappaient, nous punissaient, où on n'avait pas la parole. Donc, j'ai pas aimé l'école. J'avais l'impression qu'on me coupait les ailes, que j'avais plein d'autres choses merveilleuses à faire, écrire des histoires, dessiner, peindre, jouer, inventer des jeux. Donc, j'ai forcément rencontré la pédagogie freinée.
Alors, il faudrait peut-être que tu récapitules efficacement ce qu'est la pédagogie
Alors,
Freinet.
Célestin Freinet, voilà, en rentrant de la guerre de 14, avait une idée de donner la chance à chaque élève en valorisant le talent de chacun. Donc il a préparé tout un matériel où l'enfant peut travailler tout seul, se corriger lui-même. Par exemple, je prends un exemple concret, la règle du A. Un enfant, je vois, il n'a pas compris au CE1, le A accent, A sans accent. Donc, il y a des fiches où il va travailler tout seul, 9 fiches, il va se corriger lui-même. Et la 10e fiche, elle est corrigée par l'instit. Et si l'enfant a encore un problème, il a carrément un cours particulier. Et si il s'est acquis, eh bien, on peut passer à autre chose. Donc, il y a tout ce travail personnel. Il y a la classe coopérative. On décide ensemble des textes qu'on va mettre dans le journal. On vote. Bon, c'était un communiste, donc il y avait ce sens aussi du groupe. On vote pour le journal, on vend le journal, on vote pour savoir qu'est-ce qu'on va décider avec l'argent du journal, qu'est-ce qu'on va faire. On a des correspondants à l'autre bout de la France, on apprend à connaître une région, et surtout l'imprimerie, quoi. Et moi, j'ai trouvé une imprimerie quand j'étais instit à l'école des Arts, au-dessus de Morteau. J'ai trouvé une imprimerie et c'est incroyable, alors que les lettres sont à l'envers et qu'il faut composer de droite à gauche. J'ai mes élèves de 4 ans, ils composaient leurs textes avec un modèle. Et l'imprimerie, c'est extraordinaire. Et on a vendu les journaux. Avec l'argent, on est allé au ski. On est allé acheter des fruits de mer qu'ils ne connaissaient pas pour faire un repas à l'école. Enfin, on avait toujours des projets. On est parti se promener à Besançon. Ils n'avaient jamais quitté Besançon. Je vous parle de
ça. Ils n'avaient jamais quitté Morteau.
Ils n'avaient jamais quitté Morteau.
Ce sont essentiellement des enfants d'agriculteurs.
Voilà, c'est les années 73 à 80. Et en fait, c'est grâce à la pédagogie Freinet que j'ai rencontré le monde paysan, puisque je faisais beaucoup de réunions pour que les paysans comprennent, pour que les parents d'élèves comprennent comment les enfants allaient travailler beaucoup par eux-mêmes, sans devoir obligatoire, sans punition, qu'on allait régler les choses nous-mêmes. Donc, il y avait beaucoup de réunions. Et pendant les réunions, les paysans, c'était « Oh, bah, vous viendrez voir ma nouvelle cuisine incarcérée hein ?» Oh, puis vous avez vu ce temps, ben c'est rien, mais en 42. Et puis ça n'arrêtait pas. Et puis ils avaient surtout envie de discuter entre eux. Et puis que dès que la réunion était finie, on allait boire la goutte dans ma petite cuisine en haut, dans mon appartement en haut de l'école, manger du gâteau de ménage qu'ils apportaient. Et c'est grâce à eux, je dis que la Madeleine Proust, elle est née aussi grâce à la pédagogie Freinet.
Donc c'est là que tu t'intéresses à ces vocables, à ces expressions.
Puis avec Gérard, on adore les écouter.
Et pourtant, tu n'es pas de cet univers-là. Tu viens d'un parent commerçant.
Oui, commerçant, plutôt bourgeois.
Bourgeoisie, bien installé à Morteau.
On fait du ski, on va en vacances sur la Côte d'Azur. Il y a des paysans du côté de ma grand-mère, mais en Corrèze, où je suis allée 1 ou 2 fois, mais j'aime pas du tout. Et là, oui, là, je découvre ce monde paysan, puis ce qu'il me raconte. Et je me demandais toujours, mais pourquoi j'ai été appelée comme ça à leur rendre hommage, à les mettre en valeur? Parce qu'à l'époque, ils me disaient, vous voulez faire un spectacle sur nous? Oh, mais ça marchera pas, on n'intéresse personne, nous. Et c'est vrai que dans les années 80, le monde paysan était très méprisé. Je dis pas qu'il est très reconnu aujourd'hui, parce que de toute façon, le monde paysan, le libéralisme veut l'effacer. N'en a plus besoin, ils veulent que les gros agroalimentaires. C'est d'ailleurs terrible. Enfin, en Franche-Comté, on s'en sort bien avec le comté, parce qu'ils ont réussi à faire une coopérative et c'est eux qui décident du prix du lait. Donc, on est quand même assez malin en Franche-Comté.
Bon, la saucisse de Morteau, il faut des élevages de porc.
La saucisse de Morteau, bon, ça, ils ont quand même un label. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce monde paysan, s'il me touche, ce qu'il me raconte, ça me touche. Je ne sais pas encore, évidemment, que je vais écrire 2000 pages avec la saga. Mais je les écoute. Ces gosses qui vont à l'école à pied, qui font 4 kilomètres dans la neige, les parents durs qui les amènent pas en traîneau, hein, on gaspille pas les fers à cheval de la jument qui va servir pour les labours, qui va servir pour faire les foins. Ce monde dur, ces enfants aussi, ces filles aînées qui sont obligées de s'occuper des petits qui arrivent les uns derrière les autres.
Donc toi, tu es jeune femme et tu es en admiration devant le courage. La ténacité, la force.
Oui. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, oh, ces grosses familles qu'on était. L'aînée reprenait la ferme, une fille au couvent, et puis le cadet au séminaire pour acheter tous les péchés de la famille. Voilà, c'était ça. Et en plus, ils me disent, les curés nous interdisaient de faire le coyote interrompu.
Le coyote interrompu.
Donc, il fallait vraiment faire venir les enfants, souvent, tous les ans. J'avais très conscience de ce que ces femmes avaient subi, avaient vécu, la lessive à la main, faire à manger pour 10-12 personnes 3 fois par jour. Voilà, et je me suis intéressée à eux et ils ont été fiers et heureux que je m'intéresse à eux.
Et Madeleine a été une de ces paysannes qui n'a pas eu beaucoup de possibilités de choix dans sa vie.
Quand j'ai créé mon personnage, je lui ai pas fait d'enfant. Et un jour, en interview, je ne sais plus si c'était Europe 1 ou à France Inter, ils me disent « Mais pourquoi elle n'a pas eu d'enfant ?» Et je m'étais jamais posé la question, alors que je m'en suis posé énormément. Et je m'entends lui répondre « Parce que je voulais pas qu'elle se reproduise. » Mais en fait, je pense que c'était par rapport... J'étais en conflit avec ma mère. Et avant que j'aie un enfant, j'avais peur d'avoir une fille pour me retrouver dans la même problématique mère-fille. Et je pense que j'ai pas voulu que la Madeleine ait des enfants parce que je voulais pas non plus qu'elle subisse que toutes ces femmes de paysannes ont subi élever encore des enfants alors qu'elle avait déjà élevé tous les enfants de ses parents. Parce que dans un de mes romans, la Madeleine, elle dit « J'ai 8 ans et demi et 4 enfants ». Et quand elle rentre, elle était partie chez l'oncle, et quand elle rentre et qu'elle voit qu'à Noël, il y a un nouveau bébé dans le berceau, mais c'est une catastrophe. Ce sont des femmes qui n'ont pas eu d'enfance, qui n'ont pas eu d'adolescence. Donc voilà, la Madeleine n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas pourquoi, qui était stérile. Est-ce que c'était l'André Proust ou la Madeleine? Je ne sais pas.
On va écouter un extrait de ton spectacle. C'est extrait des Adieux à la scène. Donc c'est en 2018. Hein, donc finalement, plus de 35 ans à interpréter le rôle de la Madeleine.
Ouais.
On écoute un extrait de ton spectacle. Et puis, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que c'est Lola Semonin qui nous accompagne pour Brève de dédicace paru aux éditions du Sequoia. On revient juste après l'extrait du spectacle.
Voilà, pour en parler aussi des brèves.
Ce matin, je me suis levée, j'avais mal au dos, j'étais contente. Parce qu'à mon âge, quand tu te réveilles et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Le camel, il me dit qu'il y a une chaîne à la télé qui montre la météo à longueur de journée. Eh ben, nous, ça fait des siècles qu'on l'a, ça. Ça s'appelle la fenêtre. Tiens, voilà le facteur. Ah ben, c'est le remplaçant. Ah, il m'énerve, celui-là, malheur, il m'énerve. Eh ben, vas-y, use les pneus de la poste. Ils vont encore nous parler de... Puis tous les jours, hein? Puis après, ça passe à autre chose et puis on n'en entend plus parler. mort. Il n'y a pas de mort intéressant. Les hommes politiques, ils sont toujours à la télé, mais quand c'est qu'ils bossent sur dossier, hein? Ah ben. Pendant les pubs, peut-être. Oh, mais on en a les oreilles farcies. Harry Say dit le plus dur pour un homme politique, c'est d'avoir assez de mémoire pour se rappeler de ce qu'il ne faut pas dire. Enfin, moi, pendant les infos, je dors. Ah ben, c'est pas moi qui regarde les infos, c'est les infos qui me regardent. Alors, ma foi, le Noël d'après, à mes 6 ans, je cours vite vers le fourneau voir si le petit Jésus m'avait rapporté une orange. Qu'est-ce que je trouve dans mon sabot? Une pomme. Mais alors, une pomme comme les pommes du verger. Oh, je me mets à pleurer. Et puis, le papa, il me fait, mais c'est pas une pomme du verger, c'est une pomme de Paris. Oh, une pomme de Paris. Oh, je revenais pas. Ah, je revenais pas que le petit Jésus est allé jusqu'à Paris pour me ramener une pomme. Oh, puis elle sentait bon, cette pomme, elle sentait Paris. C'est comme si j'avais eu la tour Eiffel dans mes mains. Oh, j'ai dit merci, petit Jésus, de m'avoir tant gâté.
Alors là, Lola, on a écouté un extrait là, des adieux à la scène où justement la petite Madeleine, enfant, là, à Noël, elle voulait une orange. Et en fait, elle a eu une pomme, mais le papa valorise et magnifie cette pomme. C'est une pomme de Paris.
En fait, dans les années 90, j'ai fait une émission pour France Bleu Besançon, Le Temps Retrouvé. Donc j'interrogeais des anciens. Et ça passait non-stop pendant 20 minutes, ce qu'ils ne feraient plus du tout aujourd'hui. Et à la fin, je leur demandais toujours un souvenir de Noël. Et c'est une commerçante de Morteau, la Laure Béliard, qui m'a raconté cette histoire de pomme de Paris que j'ai trouvée tellement merveilleuse, émouvante. Je l'ai toujours gardée dans un coin de ma tête. Et quand j'ai écrit mon... Parce que le Thomas de la Madeleine Proust Une Vie, je l'ai écrit en même temps que le spectacle qui allait faire mes adieux à la scène. Donc, cette pomme de Paris, elle est à la fois dans le roman et elle est à la fois dans le spectacle.
Alors Lola, après effectivement la saga romanesque, avec les brèves de dédicace aux éditions du Sequoia, là tu es peut-être dans l'écriture finalement d'un spectacle qui pendant plus de 30 ans a baigné plusieurs générations de spectateurs. Ceux qui viennent t'acheter tes livres.
C'est énorme. Bah, hier, tiens, je suis allée voir dans un magasin de vélo à Besançon et il me reconnaît, un jeune, hein, il a peut-être 30 ans, il me reconnaît et tout d'un coup, il a les larmes aux yeux et il me dit « Si vous saviez ce que ça me fait de vous voir, parce que de mon grand-père, j'ai hérité 3 choses importantes pour moi. » Le MacVin, le Tour de France et la Madeleine Proust. C'est vraiment émouvant.
Alors, tu racontes là, dans ces brèves de dédicaces, alors les dédicaces, t'en as fait énormément. Alors, il y a les salons du livre traditionnels. Nous, on s'est vus par exemple au château du Clos de Vougeot, donc oui. Entre Beaune et Dijon. Mais ça peut être dans des endroits, alors le Cirque Grus à Paris, à la Percée du Vin Jaune, à Voiteur ou à Arbois. Ça peut être au CHU de Chalon-sur-Saône, où là, t'as dédicacé pour les malades.
Oui, là, c'est vraiment une liste de dédicaces dans des lieux un peu improbables, des épiceries, Monsieur Bricolage. Mais j'ai fait...
Et même Librairie Anarchiste de Besançon et à la Foire du Livre Libertaire, tiens donc.
Oui, oui, ah oui, oui, ça, oui, je suis très pote avec des libertaires, ah, oui. Oui. Et alors, je les aime beaucoup.
Et les Colettes au Biseau. Alors, le Biseau, c'est un très petit village qui est à quelques kilomètres de Morteau. Qu'est-ce que c'est que cette maison de Colette du 15e
siècle? Alors, ils ont réussi à racheter par une association et par des dons une maison qu'appartenait à une femme qui s'appelait Colette. Et cette Colette, tu pouvais aller boire un coup dans sa cuisine. Elle avait la licence 4. Donc, tu pouvais entrer dans sa cuisine, boire un coup. Ça, je l'ai fait. J'avais, je sais pas, 30 ans, 40 ans. Depuis, elle est décédée. Et puis, tu pouvais dire, oh, je mangerais bien quelque chose. Bah, j'ai des œufs et puis de la salade. Ça vous va, allez, hop. Et donc, cette association a repris ce lieu. Donc, c'est une vieille maison du 15e siècle avec un escalier tournant. Et ils sont très dynamiques. Ils organisent des concerts, ils organisent du yoga, ils organisent toutes sortes d'activités.
Et donc, tu allais dédicacer.
Je suis allée dédicacer.
Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'alors, les surnoms, on te demande des dédicaces pour nez de bœuf, pour la choute, au jaune d'œuf, au zèbre, à tête de chat, gradouble, zigounette. Alors là, tu les as tous notés.
Alors en
fait, tu as écouté aussi.
Oui, oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que depuis que j'ai créé la Madeleine, j'ai toujours noté, sans arrêt, où que je sois, dans un magasin, au resto, avec des potes, dans le train. J'ai toujours une oreille, une troisième oreille, qui capte parfaitement quelque chose de drôle ou quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai gardé ça. Et quand je dédicace et que les gens me racontent leur vie ou me disent quelque chose comme « Oh, vous êtes la tour Eiffel de la Franche-Comté »,
mais tu vas finir au musée Grévin, en tout cas. On te l'a prédit.
Non, ils m'ont pas choisi. Donc, j'écris. J'écris même pendant qu'ils me parlent. Et j'avais toutes ces notes et je les recopiais quand je rentrais d'une dédicace. Donc, il y a des compliments, il y a de l'humour, il y a des confidences. On fait beaucoup, beaucoup de confidences. Et je me suis dit, je faisais lire parfois des passages à des amis qui passaient, puis ils riaient. Donc j'ai proposé à Sequoia, est-ce que ça t'intéresserait pas de publier ces brèves de dédicaces ?
Et tu l'écris dans l'introduction, et vous avez un sacré talent.
Ah oui, ça c'est le talent des écrivains, là c'est sûr.
Alors, on va marquer un nouvel intermède musical. Qu'écoute-t-on, Mickey 3D
Ah, Mickey 3D, il faut que tu respires. Il a écrit ça il y a au moins 30 ans. Et il n'y a toujours pas de conscience universelle et des hommes, des politiques, des puissants qu'on est en train de tuer la Terre et qu'on est en train de tomber malade à cause de cette pollution. Enfin, ici, chez moi, dans le Haut-Doubs, ça va. Mais je vois l'autre jour à Besançon, je toussais tellement j'avais du mal à respirer.
Alors, respiration musicale. Alors, c'est Lola Semonin, notre invitée. Brève de dédicace aux éditions du Sequoia qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radio. On revient juste après.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, et c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio N avec Lola Semonin. Lola Semonin qui pendant 35 ans a interprété le personnage de la Madeleine Proust. Alors maintenant, elle s'est retirée, c'est la fin. En tout cas, pour toi, sur scène, tu as passé d'ailleurs le flambeau à une jeune fille. Alors c'est très amusant d'ailleurs parce que lors des dédicaces, il y a une cliente qui attend pour se faire dédicacer son livre et qui te dit « Vous avez une remplaçante, il paraît, on l'a vu à la télé, mais elle a toujours un foulard, elle est musulmane ?» Elle est musulmane alors ?
Oui, puis on me dit aussi « C'est votre disciple ?» Puis comment elle s'en sort, votre remplaçante ?
Alors sur la couverture des brèves de dédicaces, il y a un choix. Des perles, hein, presque. Mais ça, c'est authentique, tu n'as rien inventé.
Hein. Ah non, j'invente
alors,
rien.
Donc, vous êtes pour les Franc-Comtois, ce que la Tour Eiffel est pour les Parisiens, c'est délicieux.
Oui.
Concernant la saga romanesque de notre...
De la Madeleine Proust.
Madeleine, il y a donc quelqu'un qui t'a dit, mais c'est un roman autobiotique.
Oui.
Et alors là... Oh, ça s'est gonflé quand même. Les gens ont quand même une certaine maladresse parfois. J'aime mieux vous lire à la bibliothèque, c'est moins cher.
Oui, parce que dans ce livre, en plus, j'ai fait une rubrique des ventes ratées. Alors des fois, on baratine. On a envie de vendre, en fait. Quand on est auteur, on a envie d'être lu. Et puis, au bout de 10 minutes, la personne dit « Bon, ben, contente de vous avoir vu, au revoir. » Donc, j'ai fait toute une rubrique des ventes ratées qui sont aussi assez drôles.
Alors, il y a aussi... des personnes, alors c'est très émouvant, des gens qui viennent te saluer en dédicace, qui achètent un livre ou pas, mais qui te rappellent que t'as été, alors que quand ils t'entendent, ça fait rejaillir en eux, remonter les souvenirs de la maman, et alors ça leur tire des larmes, et toi-même ça t'as dû vivre des moments assez bouleversants.
Ah oui, mais il y a des gens qui viennent qui pleurent de me voir. Donc souvent je me lève puis je vais les serrer dans mes bras. Ah oui, c'est très émouvant. Les fans, les vrais fans, ils sont très généreux. Je me dis, ce sont des gens très précieux.
Et tu as des réflexions toutes simples, comme celle-ci. C'est page 88, c'est dans la section confidence. Voici ce que te dis. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On a été 15 enfants, tous heureux. Ma mère... Le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, c'est de me donner la vie.
Ah oui, on me raconte ça, exactement, tel que.
Et toi, t'es bouleversée parfois aussi?
Ah oui.
Est-ce que toi, t'as les larmes aussi parfois?
Ah oui, ça m'arrive.
Et tu te rends compte quand même de l'impact que tu as laissé à travers le personnage sur scène de cette vieille paysanne drôle, pleine de bon sens.
Ben, je crois que le public s'en rend compte plus que moi. Justement, l'autre jour, j'avais une discussion avec Gérard Boule du Chaumont, donc avec qui j'ai créé la Madeleine et qui l'a baptisée d'ailleurs. Et je disais, oui, quand je vois tout ce qu'on m'a refusé, quand je vois tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai pas encore fait, puis il me dit, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu as réalisé? Mais moi, je suis tellement dans l'instant présent aussi. Là, j'ai écrit un autre roman, Aurore et Samir, qui se lient à partir de 11 ans. Et là, je viens d'écrire un autre livre que j'ai envoyé aux maisons d'édition. J'attends une réponse. Voilà, je suis là maintenant. J'ai encore des livres à écrire, j'ai encore des livres à publier, encore des lecteurs à rencontrer. Mais je pense que c'est difficile de percevoir exactement notre parcours.
En tout cas, tu es bien tranquille dans ta ferme du Haut-Doubs. Ce qui est amusant, c'est le nombre de personnes qui, soi-disant, ont vu ta maison à Derrière-les-Gras.
Oui.
Et toi, tu leur dis, ah bon, mais elle est où? Ah, mais elle est dans le chemin, dans la montée. Oui. Alors que Derrière-les-Gras est un lieu dit de papier.
Oui, 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 Derrière-les-Gras, je l'ai inventé. Mais bon, j'habite dans une ancienne ferme, mais rénovée, contemporaine. Hein, parce que faut pas que les gens croient, comme tu dis, que j'habite dans une ferme, que je suis paysanne avec des vaches. Hein, parce que c'est ce qu'on croyait au début que je jouais la Madeleine. Ils croyaient vraiment que j'étais une paysanne. Ils ne voyaient pas que j'étais une comédienne qui avait fait tout un travail d'acteur.
Et dans les compliments, quelqu'un te dit « Vous êtes la Pagnole du Haut-Doubs ».
Ah, c'est beau.
Et pas tant, ça, quand même.
Mais c'est vrai que tout ce que les gens me disent, ça me touche. Et je ne veux pas dire que ça me donne de la valeur, mais je pense que les gens perçoivent mieux ce que j'ai semé que moi.
Peut-être.
C'est ce que j'ai l'impression.
Quelqu'un te dit, votre saga, donc la saga romanesque, les 4 tomes, parus donc Pygmalion et Presse de la Cité, enfin c'est Flammarion, hein, Pygmalion. Votre saga, c'est la mémoire de toute une région, la mémoire universelle.
Mmh. Ah, c'est très beau, hein. Je sais que quand je note ces réflexions-là, je suis touchée, hein. Je suis touchée, mais je veux dire... je reste ce que je suis moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de créer, de continuer de créer, et puis d'être le plus possible avec une conscience éveillée.
Au plus haut de ta carrière, tu n'as jamais été sollicité pour une publicité à la télévision.
Ah, mais ça, j'en suis des fois malheureuse. Et là, j'ai rarement...
Nominée 3 fois
Au Molière. Je rêverais, j'ai voulu faire... Alors, une agence de pub de Paris m'avait demandé une pub pour le Comté. J'avais préparé les textes et tout, c'était très drôle, en Madeleine. Et c'est le comité du Comté qui m'a refusé. Ils ne veulent pas être assimilés à une paysanne qui a un accent. Et quand j'entends une pub, là, je viens d'en entendre une sur la saucisse de Morteau au niveau national, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je me dis, mais pourquoi c'est pas la Madeleine qui vient revendiquer ces produits du Haut-Doubs, ces produits qui nous sont chers?
Bon, c'est trop tard maintenant.
Je sais pas. Si on me demande, j'y vais, hein.
Alors, on écoute Les Mains d'Or.
Ah, Les Mains d'Or.
Alors, c'est ton choix. Justifies, s'il te plaît.
Parce que je suis très impressionnée. S'il y a des gens qui m'impressionnent, moi, c'est pas les cols blancs, c'est pas les hommes politiques, c'est le monde ouvrier. Et le monde paysan, mais surtout le monde ouvrier, parce que ce sont des gens qui ont donné leur vie, leurs mains, leur corps pour que la France ait un bon PIB, pour que la France produise des choses, et ils en ont aucune reconnaissance. Mal payés, maltraités, souvent esclavagés, renvoyés. Là, j'apprends que Seb, ils vont encore envoyer je ne sais pas combien de personnes. Mais c'est honteux comment on traite ces gens qui, eux, font la matière première de ce qu'a fait la richesse de notre pays. Donc, Lavilliers, merci pour Les Mains d'Or.
Juste avant Lavilliers, Les Mains d'Or, juste ce qu'une femme te dit lors d'une dédicace. Moi, je bosse à la Sécu. Un coup, vous m'aviez engueulé que ça allait pas assez vite. Je vais vous dire, hein, les fonctionnaires, c'est comme les livres d'une bibliothèque. Les plus haut placés sont ceux qu'on ne sert jamais. Allez, Les Mains d'Or, on est avec Lola Semonin jusqu'à midi sur Radio.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours avec Lola Semonin à l'instant, Les mains d'or de Lavilliers, c'est un choix de notre invité. Lola Semonin que nous accueillons. Alors c'est bientôt la fin de notre émission, malheureusement. Brève de dédicace disponible aux éditions du Sequoia. J'en lis une que je trouve délicieuse. Une femme donc qui fait la queue pour se faire dédicacer un de tes nombreux écrits, te dit « J'étais conseillère de gestion en milieu rural. J'aurais pu vous en écrire des livres. » Quand je demandais les WC, on m'envoyait à l'écurie pisser dans la raie.
Ah oui.
Alors Lola,
ça m'est arrivé aussi quand j'allais questionner les paysans pour créer la Madeleine. On me disait ah bah c'est dans la raie de l'écurie.
Tu souhaites mettre un coup de projecteur sur un texte qu'on peut recommander à partir de l'âge de 9 ans, que tu vas souvent présenter en milieu scolaire et qui te tient à cœur.
Oui, c'est Aurore et Samir. C'est une maison d'édition qui m'avait demandé d'écrire un livre pour pré-ado. Mais en fait, il est lu par les gens de tout âge. Hein. Parce que maintenant, ce qui est chouette pour moi, c'est que quand je suis dans un salon du livre, ceux qui ont lu la saga, donc la Madeleine Proust, une vie, ils me disent « Alors, vous avez quelque chose de nouveau ? J'ai mes lecteurs. » Alors ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que quoi que j'écrive, ils veulent me lire. Donc, ils lisent Aurore et Samir et ils aiment beaucoup aussi.
C'est aux éditions du Citron Bleu.
Voilà. Et après, ils peuvent le repasser à un petit-fils ou à un enfant. C'est une histoire d'amour entre deux enfants de 10 ans. Donc, moi, j'aime bien parler toujours de cette diversité. C'est un petit rebeu du quartier de Planoise de Besançon, qui est très fort en skate, et une petite bourge du centre-ville. Et c'est comment deux enfants de deux milieux différents vont se rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer pour quels vont être les obstacles à cette amitié-là, à cet amour d'enfant? Et ça se termine comme un conte, parce que j'aime bien que les histoires se finissent bien. Et j'aime beaucoup ce livre, Aurore et Samir.
Aurore et Samir, aux éditions du Citron Bleu. Il y a aussi les brèves de dédicace donc de Lola Semonin aux éditions du Sequoia. Je propose qu'on termine pratiquement notre émission avec un court extrait d'un spectacle. Donc c'est un extrait de la Madeleine Proust à Paris.
Ah, ça y est. C'est la chasse là-bas. Ben, y a le Risset qui va être content. Mais enfin, ben, comme dit Risset, quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, ben, on a bien raison de penser ce qu'on pense, et puis ne rien dire.
La Madeleine Proust à Paris, c'est quand même le spectacle qui m'a fait vraiment exploser à Paris, avec une ferme, des poules sur la scène, les quatre saisons, et qui m'a fait rester pendant 3 ans dans un théâtre de 600 places.
Alors, quand on voit ce qu'on voit, et qu'on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense, et puis de ne rien dire.
C'est ça.
C'est ça, Lola. En tout cas, On a bien échangé, je pense, pour le plus grand plaisir de nos auditrices et auditeurs, bref, de dédicaces aux éditions du Sequoia. On salue d'ailleurs le directeur de cette maison d'édition, Monsieur Mandel, qui
vraisemblablement nous écoute. Oui, Alain Mandel, il édite des très beaux livres. Hein, c'est un beau métier d'être éditeur sur la région, sur la ville de Besançon, sur les pompiers, sur l'horlogerie. Voilà, je le remercie d'être fidèle à mes idées et puis de leur donner vie.
Donc, aux éditions du Sequoia, Les Brèves de la Madeleine, il y a trois tomes. Il y a Le Cri du Milan, prix Louis Pergaud. Et puis donc, Les Brèves de Dédicace, édition du Sequoia. Et Lola Sémonin qui nous a accompagnés dans ce wagon livre de ce 28 février 2026. Merci Lola.
Eh ben merci, et je vais leur dire cette fois avec l'accent, parce que je pense que tu l'as un peu perdu. Quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense, et puis de ne rien dire.
Merci Lola Sémonin. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, c'est samedi prochain, le 7 mars à 11h, toujours sur Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.